l'univers est rude. Et la foule s'est pourtant massée pour assister à cette exécution qui anime toutes les conversations florentines. Leonardo da Vinci, qui aime l'effervescence de cette cité comme à nul autre pareil, s'est formé au contact du meilleur. Sa maîtrise et ses innovations picturales ont impressionné son maître, Verrocchio. Déjà, en important à Florence la technique de la peinture à l'huile, le jeune Leonardo a su se faire une place de choix. L'artiste, frénétiquement, fait face aux événements de sa vie, un crayon à la main. Plus encore que le pinceau, l'immédiateté des dessins le passionne depuis toujours. Alors que la corde est placée autour du cou du condamné, Da Vinci commence à représenter sa tenue. Il note dans la marge la couleur de ses vêtements, leur matière. Comme à son habitude, il écrit de droite à gauche. Gaucher, son écriture est vive, soignée. Elle en dit beaucoup du jeune homme qu'il est déjà. Tout en observant Baroncelli, qui jette un dernier regard à la foule, l'artiste repense aux événements qui ont conduit l'ancien marchand devant le bourreau. Les Médicis, devenus omnipotents en Florence, ont dû faire face à une terrible rébellion l'année dernière, celle qu'on appelle déjà la conjuration des Pazzi. Leonardo, les mains transies par le froid qui court et s'immisce, trace les contours de son sujet sans s'émouvoir de son sort. Il se souvient de la terreur qui a gagné toute la cité florentine il y a quelques mois. Le jour de Pâques, au cœur de la cathédrale, pendant la messe, l'histoire a basculé sans mesure. Laurent et Julien de Médicis, les deux frères qui contrôlaient la ville alors, se sont fait surprendre. Pourtant, l'Europe se courbe devant eux. Les princes et les rois du continent, tout comme le pape, se pressent chez eux pour leur emprunter des monnaies sonnantes et trébuchantes. Leur politique de mécénat leur a permis de rassembler dans la cité florentine les plus grands noms du temps, de Botticelli à Donatello. Face à ces figures tutélaires, De Vinci n'est encore qu'un jeune loup, peu connu du grand public. Ça va changer. Autant dire que face à leur puissance et leur richesse, les frères Médicis se sont sentis intouchables. Grossière erreur. Ce succès a fait naître de la jalousie partout à Florence, parmi les familles marchandes. Parmi ces clans, les Pazzi sont présents depuis des temps immémoriaux. Pour eux, les Médici sont des parvenus. En 1478, et avec le pape et d'autres grands personnages de l'époque pour alliés, ils ont tenté le tout pour le tout en échafaudant un plan terrible. Son but, tuer les deux frères et décapiter le pouvoir de la famille de Médicis. La cloche de la tour du palais du Bargello s'arrête de sonner. Le bourreau s'approche de la corde. Bientôt, tout sera terminé. Da Vinci, lui, continue son office et repense à la messe sanglante de Pâques. Réunis au cœur de la cathédrale, les frangins ont été attaqués par surprise alors qu'ils étaient agenouillés au moment de la communion. Les assassins sont alors sortis du bois et ont frappé Julien de Médicis à 19 reprises. Attaqué par des prêtres, Laurent, lui, s'en est tiré. Blessé, martyrisé. Depuis lors, un sentiment de vengeance terrible le dévore. Le peuple florentin, lui, outré par cette tentative d'assassinat au cœur du lieu sacré, s'est chargé de tuer dans l'œuf la révolte des Pazzi. L'archevêque de la ville et bien d'autres y sont passés. Mais la vengeance ne pouvait être complète qu'avec la mort de cet homme qui se tient là, face à son destin. C'est lui qui brandit l'une des lames responsables de la mort de son frère bien-aimé. Bien loin de là, au même moment, un musicien est en train de s'éveiller au monde. Josquin des Prés est un artiste au début de parcours nébuleux. Né en terre bourguignonne, ses prédispositions pour l'art musical lui ont ouvert de nombreuses portes. Et alors que la cité florentine se meut sous la faux impitoyable de la vengeance, René, duc d'Anjou, écoute avec délectation son chantre déclamé dans l'une de ses chapelles. Bientôt, la voix et la plume de Josquin des Prés vont devenir si célèbres que la cour du roi de France, Louis XI, va se pencher sur son cas. Les deux hommes ne vont pas tarder à se rencontrer. Le musicien va même lui dédier un motet, le Misericordias Domini. Une œuvre forte qui va lui permettre de faire sa place dans la cour des grands. Le jeune chantre ignore encore tout de son destin. Florence, le condamné ne tarde pas à se balancer au bout de sa corde. Sa nuque ne se brise pas. Il meurt dans d'atroces souffrances lentement. Son visage se violace. Ses yeux sortent des orbites. Et alors que bon nombre de courtisans détournent le regard, le dessinateur, lui, trace les derniers détails de son œuvre. « Ce dessin est parfait, murmure-t-il pour lui-même. » Comme d'habitude, c'est le sens du détail, de la perfection qui l'anime. Léonard de Vinci ne va pas tarder à devenir l'un des plus grands artistes de tous les temps. Il va pour cela devoir évoluer au cœur de la Renaissance florentine. Elle incarne une réalité double et antinomique. D'un côté, elle concentre très certainement un lot de talents inégalés dans l'histoire de l'Occident. De l'autre, les puissants. Ils déploient une violence extrême. Ils ne vont pas hésiter, les uns les autres, à se dévorer pour maintenir en place leur puissance et leurs privilèges. Quelques années plus tard, en 1481, nous sommes toujours à Florence. Dans l'atelier du peintre et sculpteur Verrocchio, un silence pesant règne. Rien d'anormal. Comme toujours, modèles et artistes se meuvent sans un bruit. Dans un coin de l'espace, Léonard de Vinci n'a pas encore 30 ans. Il est pourtant, depuis 1472, passé au rang de maître après avoir impressionné son professeur de toujours. Ses premières commandes arrivent. Une notoriété commence à lui rendre la vie plus facile au cœur de la cité florentine. Les moines du couvent de San Donato se sont rapprochés de lui afin de peindre une toile gigantesque, l'Adoration des Mages. Constituée de 10 planches encollées à la verticale, renforcées par 2 traverses de bois, l'œuvre est immense et demande une technicité extraordinaire. Plus encore, il n'a que 30 mois pour la fournir achevée à ses commanditaires, un véritable chemin du combattant. Dans l'atelier, Verrocchio, comme à son habitude, vient se placer derrière son ancien protégé et l'observe travailler. Ici et là, il lui distille encore quelques conseils, mais il ne se fait aucune illusion. L'élève a dépassé le professeur, de très loin même. Le maître est ravi. Dans quelques années, il ne pourra plus assurer la transmission de son art. Il confiera définitivement les clés à De Vinci. Un destin tout tracé l'attend. Mais Verrocchio se trompe lourdement. Dans quelques mois, et sans raison apparente, Leonardo va se faire la malle et quitter cette ville qu'il aime tant. Il va prendre tout le monde à contre-pied et commencer à bâtir lui-même l'un des mystères qui entourent son incroyable existence. Dans le même temps, à Paris, Josquin des Prés s'est lié avec le roi Louis XI. Le voilà rattaché à la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité, l'un des cœurs battants de la vie artistique à la cour de France. L'Italie, pour l'artiste, semble encore loin. Et pourtant, comme pour De Vinci, les choses vont s'accélérer pour le compositeur. Et les deux hommes, alors que rien ne les prédisposait, vont se retrouver dans une des plus grandes villes de la botte. Ils vont y servir le même clan. Les tout-puissants Sforza. Le musicien, lui, va se lancer dans la composition de motets qui vont participer à le rendre particulièrement célèbre. Parmi ses œuvres uniques, on compte son Ave Maria, Virgo Serena, un travail d'orfèvre qui nous rappelle que Léonard de Vinci est loin d'être le seul esprit brillant de la Renaissance. ainsi est un personnage bien particulier et mystérieux qui navigue dans cette cour florentine puissante. Au centre de cette fresque unique en son genre, le personnage de Léonard fascine autant ses contemporains qu'il interroge. Parler de lui, c'est évoquer en profondeur les ramifications de la Renaissance en Italie et la réalité d'une époque comme à nul autre pareille. Originaire de Vinci, un petit village toscan, Léonard naît en 1452 alors que le monde connaît une mue profonde. La toute fin du Moyen-Âge est le théâtre de nouveaux équilibres mondiaux. De Vinci entre dans sa première année lorsque la ville de Constantinople tombe aux mains des Turcs. C'est la mort de l'Empire romain d'Orient. En Europe, les royaumes sont de puissantes entités concurrentielles. La France est le pays le plus peuplé du continent. L'Italie, elle, n'existe pas encore en tant qu'ensemble fédéré. Une mosaïque de comtes, ducs et autres nobles gouvernants, indépendants des uns des autres, et plus ou moins puissants, se côtoient et sont en concurrence. Fils illégitime d'un notable, d'abord rejeté, puis mieux considéré par son père, qui ne parvient pas à avoir d'héritier légitime, Leonardo a vécu une enfance particulière. Elle n'en est pas moins confortable, car sa famille est aisée. Son éducation est solide, et il apprend à écrire et à lire dès son plus jeune âge. À l'époque, ses savoirs sont réservés à une caste supérieure. Même avec son statut de bâtard, le petit garçon y a droit. Dès le départ, il se dote d'une particularité. Il rédige ses mots de la droite vers la gauche. Une capacité que peuvent avoir certains gauchers, mais qui sort de l'ordinaire. Très tôt également, Leonardo se plaît à vivre au contact de la magnifique nature toscane, richement garnie. Son enfance est l'un des mystères entourant la personne de De Vinci. On peut la deviner, l'imaginer, sans certitude. Sa manière d'écrire nous raconte qu'il a été autodidacte. La volonté de son père de l'envoyer à Florence, dans l'atelier du peintre Andrea del Verrocchio, dit beaucoup du potentiel du garçonnet dans le monde de l'art. Dessinait-il à une époque où le papier restait une denrée rare? Peut-être. En tous les cas, Leonardo prend la direction de la cité florentine, le cœur léger. Il va s'y révéler. Curieux de comprendre le monde dans lequel il évolue, le petit Léonard se persuade très vite d'une chose particulière. Il est né pour vivre des choses extraordinaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la suite des événements va lui donner raison. Le jeune homme n'est pas perdu en arrivant dans la ville. Son père notable est propriétaire d'une maison dans le centre-ville et connaît bien les gens qui comptent à Florence. De quoi se faciliter la vie. Il faut dire que la cité est en pleine expansion et que modernité, expansion et jeunesse y règnent sans partage. L'apprenti s'y sent comme un poisson dans l'eau. Dans l'atelier du peintre et sculpteur Verrocchio, De Vinci entre dans la cour des grands. Son premier gros chantier concerne l'édification d'une sphère en cuivre qui doit trôner sur la lanterne du dôme de la cathédrale de Florence. Il faut donc trouver un moyen de la fixer solidement. La chose n'est pas une mince affaire et l'effervescence est réelle dans l'atelier du maître. Le plus grand défi, hisser ces plusieurs tonnes à plus de 100 mètres de haut. Une mission qui semble impossible et pourtant, grâce à une grue et à un bras immense, l'œuvre est hissée. S'il participe à ce projet, De Vinci n'est encore qu'un élève parmi d'autres. Il s'entraîne, devient compagnon et pratique encore et encore. Ses premières peintures révèlent tout son potentiel. Mais plus encore que les coups de pinceau, c'est aussi dans la sculpture que Leonardo devient un espoir brillant. Notamment en produisant des œuvres avec de la critique. Déjà, il touche à tout. Il est surtout confronté à une importante révolution culturelle alors qu'il bosse pour Verrocchio. Venu des Flandres, les peintures à l'huile bouleversent les codes de la peinture à l'eau italienne. Le jeune homme épouse les techniques flamandes. Dans une collaboration extraordinaire, le professeur et l'élève se répondent dans un mélange des genres extraordinaires. Le baptême du Christ est l'une des premières contributions majeures de Leonardo. Impressionné par l'apport de l'huile dans sa peinture, le maître, habitué à la peinture à l'eau, frappe un grand coup. Le tout jeune De Vinci devient le responsable des peintures qui seront produites dans son atelier. Pour un temps du moins. Au début de la décennie 1480, l'artiste vole de ses propres ailes. Il se lance dans de grands projets, notamment dans l'adoration des mages. Un tableau immense de plus de 2 mètres par 2 mètres qui lui demande de grandes préparations. Et pourtant, un nouveau mystère s'immisce bientôt dans la destinée de l'artiste. Il laisse tomber ses immenses toiles pour quitter Florence, la ville qu'il aimait éperdument. Le tout avant même qu'elle soit achevée. La surprise est totale. Pourquoi part-il ? Nul ne le sait. En tous les cas, le jeune homme se sauve à Milan, un des autres grands pôles culturels des royaumes italiens. La ville, au moment de l'arrivée de De Vinci, organise un grand concours. Elle envisage d'installer dans son centre-ville une statue équestre grandiose. Est-ce là la raison du départ de l'artiste pour la cité milanaise ? Peut-être bien. En tous les cas, le jeune homme compte y faire sa place. Mais il est loin d'arriver en terrain conquis. Sa réputation toscane ne l'a pas suivi. Il a tout approuvé. Alors De Vinci va se mettre à peindre, à s'associer avec tel ou tel artiste bien introduit à la cour des Lombards. De Vinci devient un nom qui compte à Milan. La cour du duc de Milan, un homme on ne peut plus important, commence à lorgner sur son talent. Grand mécène culturel, l'omnipotent duc est entouré de grands artistes. Un certain Josquin des Prés y arrive au début de la décennie 1480, tout comme Leonardo. C'est à cette période que tout va changer pour l'artiste. Le peintre, bientôt, va passer dans une toute autre dimension, celle de l'immortalité. 1491. Depuis plusieurs jours, la belle Lombarde est en fête. Le duc Ludovico Sforza, détenteur du pouvoir et grand mécène, célèbre son union avec la jeune Béatrice d'Est, 16 ans. Au milieu des centaines de convives qui se meuvent dans des célébrations magnifiques et impressionnantes, Cecilia Galerani est un modèle que tout le monde connaît. Il y a quelques années, elle a posé pour Léonard de Vinci pour sa toile déjà célèbre, La Dame à l'Hermine. La maîtresse du duc doit mordre sur sa chique alors que son aimé épouse une autre. Chacun sa place à la cour, elle le sait bien. Mais Cecilia ne peut s'empêcher de jalouser ce qu'elle voit là, devant elle. Il faut dire que l'organisateur des fêtes a mis les petits plats dans les grands. Son nom, Léonard de Vinci, lui-même. À Milan, il a pris une épaisseur incroyable. Il est même l'homme indispensable de la cour. Peintre, mais aussi ingénieur ou organisateur de spectacles. Ses casquettes sont nombreuses. Leonardo a imaginé et conçu pour cette nuit des machines de théâtre comme des planètes qui tournent autour de chanteurs costumés en dieux antiques ou des étoiles qui s'allument mécaniquement. Au cœur des spectacles, il joue lui-même de la lira d'abraccio. Cet instrument unique, il l'a offert au duc après l'avoir fabriqué dans un crâne de cheval serti d'argent. Le tout pour augmenter la résonance. De Vinci sait tout faire. Voilà ce que disent ses contemporains. Josquin des Prés, lui, n'est pas présent à la cérémonie. Appelé par le pape à la toute fin de la décennie 1480, il n'a pas pu résister à l'opportunité. Il a croisé De Vinci lors de son séjour en Lombardie, sans que leur cohabitation ne débouche sur une quelconque collaboration. Le musicien est devenu un grand voyageur, se rendant en Hongrie, mais aussi à Ferrare. Il y a composé « Missa Hercules dux Feriariae » en hommage au puissant Hercole d'Este. Le voyage, voilà un mot qui sied aussi à merveille, à l'homme qui est porté au nu par l'organisation des festivités de mariage du duc de Milan. Léonard de Vinci n'est encore qu'au commencement d'une incroyable carrière. Arrivant à Milan au début de la décennie 1480, Leonardo n'est pas en terrain conquis, bien au contraire même. Et malgré des commandes qui le font travailler pour l'entourage du duc Sforza, Il va lui falloir du temps pour gravir les échelons. Une décennie est nécessaire avant qu'il n'obtienne le poste recherché d'ingénieur ducal. La Lombardie devient pourtant le terrain de jeu qui lui permet de se révéler d'un point de vue universel, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que scientifique en ingénierie. Ses travaux lui donnent l'occasion chaque fois de faire des parallèles entre les différentes disciplines auxquelles il s'intéresse. Et de Vinci bientôt impressionne ses contemporains par un savoir qui semble sans limite. L'homme sait aussi que son ingéniosité technique va pouvoir lui permettre de se faire bien voir auprès de l'ambitieuse Sforza. Alors, il imagine des machines militaires pour le moins impressionnantes et futuristes. Chars d'assaut, ponts mobiles ou mitrailleuses. On dirait qu'il est en avance de plusieurs siècles. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde d'écart. Et certains des engins imaginés par Léonard sont en pratique totalement irréalisables. Il s'essaie aussi avec beaucoup de succès au génie civil. Là encore, il touche à tout. Mais De Vinci n'en oublie pas pour autant ses commandes artistiques. Un projet énorme lui tombe bientôt dans les mains, celui de reproduire la scène, le dernier repas du Christ. Sa célébrité après cette réalisation est tout simplement extraordinaire. Pour l'une des toutes premières fois, un peintre semble avoir donné vie à des personnages bibliques avec une précision qui dépasse